session sur la personne humaine par le Père Marie-Dominique Philippe, le 3 juillet 2002 à Saint-Judard, deuxième conférence.
Quelle différence entre expérience et expérimentation. N'est-ce pas la conscience qui me donne l'évidence de la connaissance sensible? Dans l'expérience. Elle est donc antérieure à l'expérience. La conscience n'est-elle pas d'ailleurs un domaine essentiel de la personne humaine? Quand la conscience, c'est une propriété de l'intelligence. Donc quand je parle de l'intelligence, je parle de la conscience. Tout jugement implique une conscience. J'ai conscience de penser quand je pense. Quand je pense pas, évidemment, je n'ai pas conscience. C'est un attribut, une propriété de la connaissance. Alors, on a séparé les deux. Parce qu'on est très subjectif. Et la conscience, c'est l'aspect subjectif de la connaissance. Je connais quelque chose, je connais quelqu'un. Et j'ai conscience de le connaître. Vous voyez, l'aspect subjectif de la connaissance intellectuelle, c'est la conscience. Toute connaissance intellectuelle, tout jugement intellectuel, on a conscience. Mais l'aspect objectif, c'est ça qui constitue la connaissance. Ça, c'est l'aspect subjectif, la conscience. Alors, évidemment, on est impressionné par la conscience. C'est en quelque sorte ce qui nous reste dans notre avoir intellectuel, c'est la conscience. Or, c'est très vrai qu'on est passé d'un aspect objectif à un aspect subjectif. Quand on regarde l'histoire de la connaissance, chez les Grecs, on avait très fort la connaissance objective. Je connais quelqu'un. C'est ce quelqu'un qui m'intéressait. Je connais ceci. C'est le ceci qui m'intéressait. Aujourd'hui, on est beaucoup plus orienté vers l'aspect subjectif, à tel point que souvent la connaissance intellectuelle se ramène à la subjectivité et donc à la conscience. C'est très important la conscience, c'est évident, mais ce n'est pas l'essentiel. C'est connaître quelqu'un qui est l'essentiel. C'est connaître quelque chose. Alors, quelle différence entre expérience et expérimentation? L'expérimentation, c'est refaire, je dis bien, c'est refaire une expérience avec une hypothèse dans la tête. On a une hypothèse dans la tête et on veut voir si c'est ça que ça colle. Oui. Est-ce que je vous parlais de l'objectivité de Pauve Méry, l'objectivité du journaliste. Il a une hypothèse en tête. Il y a eu des dégâts, tel fleuve. On a une hypothèse. Et on va confirmer si son hypothèse se trouve réalisée. Ah, ça, c'est l'expérimentation. dans l'expérimentation, on est téléguidé. Parce qu'on cherche quelque chose. Et on veut voir si c'est vrai. Et c'est vrai, dans la mesure, on peut refaire cela. Tandis que l'expérience, il n'y a pas d'hypothèse. Je rencontre quelqu'un. J'ai l'expérience de cette personne. Si je la revois, ah, je me fais à moi-même une espèce, une idée de cette personne. J'ai rencontré cette personne, elle m'a semblé très intellectuelle et très prise par un idéal intellectuel. Alors, j'ai une idée en tête, une hypothèse en tête, et je la revois tout à fait différemment qu'avant, avec cette hypothèse en tête. Cette hypothèse peut être affective. Je vois cette personne, oh, il semble bien que je pourrais l'aimer. Quelqu'un de sympathique. Alors, il me semble bien que je pourrais l'aimer. Je reviens avec cette idée, je pourrais bien l'aimer. Je vais voir un peu ce qu'elle est. On fait tout le temps ça. L'expérimentation est donc une expérience avec une hypothèse qui oriente cette expérience. C'est pour ça qu'en science, on est tout le temps dans l'expérimentation. C'est toujours l'expérimentation. C'est l'expérimentation qui m'aide à développer ma science. Tandis que le philosophe est beaucoup plus dans l'expérience. L'expérience est plus simple que l'expérimentation. Il n'y a pas d'hypothèse. Je suis frappé de quelque chose. On a cette expérience, une expérience brute. L'expérimentation est une expérience savante, avec une hypothèse et quelquefois avec des instruments pour mieux voir le petit microbe, pour mieux voir ce qu'il en est. J'ai un instrument qui me permet. Et à ce moment-là, je ne dis pas que j'ai une expérience. J'ai aucune expérience de ce que je vois avec un instrument. Mais j'ai une expérimentation. Mon hypothèse se vérifie. Vous voyez ? C'est très différent, les deux. Et évidemment, nous sommes, nous, beaucoup plus des recherches, des chercheurs, de sorte que l'expérimentation prend très souvent le pas sur l'expérience. Et l'expérience n'est plus aussi, j'allais dire, lumineuse, aussi sympathique, parce qu'il y a une hypothèse. Alors, en métaphysique, je ne parle pas d'expérimentation. En philosophie, non. Je veux saisir la réalité telle qu'elle est. Je ne me sers pas d'un télescope. Je ne me sers pas d'un instrument. Je me sers de mes lunettes. Et les lunettes sont faites pour que je vois bien les choses, mais pas pour augmenter la vision des choses. Au contraire, c'est pour que je les vois telles qu'elles sont. C'est ça qui est très différent. N'est-ce pas la conscience qui me donne l'évidence de la connaissance sensible ? Strictement, la connaissance sensible a conscience, pas par la connaissance sensible. Ça, c'est très juste. La connaissance sensible a l'expérience parce que toutes mes connaissances sensibles sont prolongées par l'imagination, toujours. Mes expériences mon expérience sensible, et que l'imagination est liée à l'intelligence. De sorte que la conscience qui me donne l'évidence de la connaissance sensible dans l'expérience. L'évidence vient de l'intelligence, la conscience vient de l'intelligence qui vient donner cette évidence de ma connaissance sensible, c'est vrai. Ma connaissance sensible n'est jamais toute pure. Elle implique le point de vue de l'imagination et le point de vue de l'intelligence. La conscience n'est-elle pas d'ailleurs une dimension essentielle de la personne humaine ? Je dirais, la conscience est une dimension essentielle de la connaissance humaine. Et de la connaissance humaine, donc de la connaissance intellectuelle. Donc la connaissance intellectuelle est un élément essentiel de la personne. Parce que j'ai des consciences affectives, il ne faut pas l'oublier. Quand j'aime, j'ai conscience d'aimer. Et ce n'est pas la même connaissance, la même conscience que lorsque je connais. La conscience affective, vous l'avez, surmuée au plus intime de mon cœur. Alors il faut voir que, de fait, je parle ici de la connaissance, et j'en parle en premier lieu, mais je vais tout de suite parler après de l'aspect affectif, qui est un élément aussi essentiel de la personne, et très souvent même principal. Alors ça, on verra ça. C'est pour ça que la dimension, pas la conscience n'est pas une dimension essentielle de la personne. Elle fait partie de la personne parce qu'elle fait partie, la conscience fait partie de la connaissance intellectuelle. Toute connaissance intellectuelle implique une conscience. Et la conscience, c'est la réflexion immédiate sur mon acte d'intelligence. Mon acte d'intelligence a ceci de tout à fait particulier parce qu'il n'y a pas d'organe physique. Et c'est pour ça que j'ai conscience. J'ai conscience de connaître intellectuellement. J'ai conscience d'une expérimentation. J'ai conscience d'une expérience. J'ai conscience d'une imagination. J'ai conscience de ce qu'on appelle, ce qu'Aristote appelle la cogitative, ce qui me convient au point de vue sensiblement. Il y a des figures qui me conviennent. C'est pas intellectuel ça. C'est sensible. Il y a des physionomies qui sont dures à porter. C'est pas l'intelligence qui me dit ça. C'est quelque chose de particulier et on appelle ça la cogitative. Aristote appelle ça la cogitative. La cogitative, c'est tout ce qui me convient. Les fraises. Ça me convient. Pourquoi vous dites que les fraises sont bonnes ? Ah, parce que vous avez fait une expérience de prendre des fraises quand vous aviez très chaud. Alors c'est merveilleux. La fraise. Et à partir de cette petite expérience que vous avez eue, votre cogitative considère que la fraise vous convient très bien. Et vous avez fait d'autres expériences quelquefois. Vous avez voulu goûter quelque chose d'amer sur une noix. Vous n'aviez jamais vu, vous n'avez vu que des noix au marché. Et puis vous voyez une noix sur l'arbre. C'est merveilleux. au marché, elle n'est pas comme ça. Tandis que là, et puis vous mettez... C'est pas agréable. Il y a une expérience. C'est une expérience. C'est pas une expérimentation. Parce qu'il n'y a pas d'hypothèse. Tandis que vous pourriez mettre une hypothèse en mettant, je ne sais pas quoi, en prenant avant un peu de sucre. Alors vous supporteriez beaucoup moins l'amertume de l'écorce de noix. Vous supporteriez beaucoup plus, je veux dire. Et vous vous préparez quand vous connaissez. Quand vous connaissez des légumes amers, vous y préparez et vous mettez du sucre, du sel. Mais quand on se trompe, c'est très désagréable. Et je me souviens d'un café pris dans un salon. Et puis les gens s'étaient trompés. La maîtresse de maison s'est trompée. Et c'était du sel. Alors, quand vous salez le café, vous êtes bien obligé de faire une bonne figure. Votre café est excellent. Surtout, vous ajoutez salé. Là, il y a des expériences toutes simples. Du coup, il n'y a pas d'expérimentation du tout. La cuisinière, elle peut faire une expérimentation. Des fines cuisinières peuvent faire des expérimentations parce que elles savent mettre le sel, le sucre, le poivre, tous les ingrédients. Et elle fait son expérimentation sur la viande qu'elle est en train de cuire. Le gigot avec tel et ingrédient, ça change. Alors vous avez une hypothèse, vous faites une hypothèse, est-ce que ce ne serait pas bien meilleur de mettre tel ingrédient avec ma viande, avec le bœuf sec? Faisons des expériences quand même. Et un maître coq fait ça. Parce qu'il veut savoir. Alors, vous voyez, là, vous voyez tout de suite la différence entre l'expérience brutale et une expérimentation. Alors, poussé jusqu'au bout, l'expérimentation du savant est très calée. Elle est faite dans les circonstances particulières, avec tel instrument. Et c'est vrai, mais grâce à tel instrument, vous apercevez des détails que votre œil était incapable de voir. Vous avez grossi tout. Alors là, c'est une autre question. C'est plus la réalité, c'est la réalité expérimentée par le télescope, par le microscope. Et vous devez l'indiquer. C'est plus une expérience, c'est une expérimentation que vous faites. Certaines choses apparaissent comme ça. Qu'est-ce qu'il y a dans la réalité? Ah, vous savez que votre microscope agrandit les choses à telle dimension. Vous le savez. Alors, si vous voulez savoir la réalité, vous allez regarder la force du télescope. Et vous êtes obligé de l'indiquer dans votre expérimentation. Tandis que dans votre expérience, vous n'indiquez pas « ce jour-là, j'étais myope et j'ai vu ça ». Non. C'est, vous voyez, toute l'action d'une intelligence qui recherche avec une hypothèse et qui fait une expérimentation, qui refait une expérience. C'est une expérience au carré, l'expérimentation, très élaborée. Donc la conscience est-elle pas d'ailleurs une dimension essentielle de la personne humaine? Oui, tout à fait. parce qu'elle est une dimension de l'intelligence. Tout acte d'intelligence, vous en êtes conscient. Tout. Vous n'êtes pas conscient toujours du toucher. Quoique, quand vous êtes éveillé, vous en avez conscience. Mais ce n'est pas par le toucher. C'est par l'intelligence. C'est pour ça que quand vous dormez, si le toucher touche quelque chose de très chaud, vous vous réveillez. Vous vous réveillez. Pourquoi ? Parce que votre toucher a tout fait votre imagination. Et votre imagination, comme c'est un toucher brutal, très grande chaleur, il a fait un saut à votre imagination. Qui a réveillé votre intelligence. Et vous vous réveillez. Oui, alors. Vous avez dit que les mathématiques. Ah, ça c'est très bien. Vous avez dit que le mathématicien comme tel ne forme pas une personne humaine. Les mathématiques ne nous font pas découvrir notre finalité. L'intelligence qui use des sens, qui est un mode d'expérience, cherche la finalité de l'homme. L'homme est fait pourquoi ? Alors vous allez me dire, oh, mais les mathématiques sont une fin. Ah, est-ce que c'est une fin humaine ? Posez-vous la question comme celle-là. Hein ? Est-ce que les mathématiques vous donnent votre vraie finalité humaine ? Votre finalité humaine, elle est faite pour contempler Dieu, connaître Dieu. Dieu est la fin de votre intelligence, le contempler autant que vous le pouvez. L'intelligence me fait découvrir l'existence de Dieu et me fait contempler Dieu. Les mathématiques ne me font pas découvrir ma finalité humaine. Comme finalité, c'est l'ami et Dieu. Il n'y a pas d'autre finalité humaine. L'ami est une certaine finalité, intermédiaire. Je l'aime, c'est une personne que j'aime. Et puis Dieu. Vous n'avez pas d'autre finalité humaine. Construire des maisons n'est pas une finalité humaine. Ça peut vous donner de l'argent. Oui. Ouais. Mais ce n'est pas une finalité humaine. Gagner de l'argent, ce n'est pas une finalité humaine. Ça vous permet, oui, de vous promener, de voyager, du plaisir. Mais ce n'est pas une finalité humaine. Et donc ça vous détourne de la vraie finalité. Or, c'est tout ce qui atteint ma fin qui me constitue comme personne. Et c'est là la mesure qui me permet de dire ce qui est vraiment un élément de la personne, un moment important de la personne, et ce qui ne l'est pas. Les mathématiques peuvent vous donner beaucoup de joie intellectuelle pour celui qui a la bosse mathématique. C'est vrai, ça vous donne beaucoup de joie. L'évidence qu'on a. Une très belle clarté et lumière, mais qui n'est pas la vraie lumière. Les mathématiques peuvent vous conduire aux valeurs, Et en plus, pas au bien. C'est le bien qui est ma fin. Et c'est le bien personnel. Une personne bonne, je peux l'aimer. C'est le bien. Alors les mathématiques ne me font pas découvrir le bien et la bonté. Même très souvent, les grands matheux sont comme des enfants pour le bien et pour la bonté. Très curieux. Ils n'ont aucun discernement. Conduisez un matheux dans une belle pâtisserie et faites-lui goûter quelque chose d'agréable. Vous verrez, c'est très curieux. Ça, c'est une expérimentation. Vous avez une hypothèse en tête. Les mathématiques peuvent découvrir les valeurs. Il y a une noblesse mathématique. Les mathématiques ont de la grandeur. C'est une noblesse. C'est la noblesse de l'intelligence. Mais ce n'est pas l'intelligence qui découvre le bien. On reste dans des évidences mathématiques qui sont des relations. Vous avez dit que le mathématicien comme tel ne forme pas une personne humaine parce que les mathématiques n'atteignent pas ma fin. Tandis que mon intelligence atteint ce qui est bon pour moi, ce qui est ma fin, l'ami et Dieu. N'est-ce pas un regard trop pessimiste ? Non, vrai. C'est grand, c'est très noble les mathématiques. C'est toujours agréable de parler à un mathématicien. Et un grand matheux, très très grand. Je dis, je crois, quand il y avait chez les dominicains un vrai mathématicien, normalien, mathématique. Alors, il travaillait quelque chose, un sujet, je ne sais plus lequel. Alors je lui ai demandé combien de personnes pourront vous comprendre. Alors il a réfléchi. Il a dit une, deux. Il mettait des noms. Trois. Pas plus, je crois. Bon, on dirait. Fiefi orgueilleux. Non, il était très humble. Parce qu'il regardait vraiment la valeur de l'intelligence. L'évidence qu'il pourrait avoir. Alors, vous écrivez pour le bien de trois mathématiciens, de trois qui sont forts en mathématiques. Il dit oui, ça vaut la peine. C'est beau. C'est noble. C'est grand. Il y a une aristocratie mathématique qui est extraordinaire. Et c'est beau. Je dis bien, c'est beau. Je ne dis pas que c'est bien, mais c'est beau. C'est une certaine noblesse de l'intelligence. Ce qu'Aristote reconnaît, hein. Il dit mathématiques, c'est dangereux, mais il reconnaît que les mathématiques, c'est la forme intellectuelle qui nous accroche le plus. Je crois que une intelligence qui se développe doit d'abord se développer, pas tout de suite, c'est l'erreur actuelle, mais il doit se développer par l'intelligence, par les mathématiques. Et puis après, dépasser. Pour saisir les réalités, l'être existant, le bien, ce qui est mon bien, l'ami. Alors c'est très étonnant de voir l'amitié chez les mathématiciens. Qui reste à l'intérieur, cette forme d'intelligence très spéciale. N'est-ce pas un regard trop pessimiste ? Non, il n'est pas pessimiste. Il essaie d'être vrai. Et il est noble, il est beau, il est grand. Il n'y a donc pas beaucoup de vraies personnes humaines aujourd'hui. C'est vrai, hélas. Vous êtes heureux quand vous rencontrez une personne humaine. Un homme avec qui vous pouvez parler de choses humaines, pas sa spécialité uniquement. Ils puissent parler vraiment de valeur, de la grandeur humaine, de la grandeur de la paternité. Parce que c'est un type de personne, la paternité. De la maternité, c'est un autre type de personne. Mais une vraie mère, c'est une personne humaine. Certaine grandeur, une vraie mère, et c'est la même chose pour le père. Le savant purement mathématicien, il vous impressionne parce qu'il y a chez lui une certaine noblesse, une grandeur d'intelligence. Mais ce n'est pas une personne humaine. C'est très curieux, ça. Vous avez dit que l'intelligence était immatérielle. Qu'est-ce que l'immatériel ? L'immatériel, c'est le non sensible, le non quantitatif, le non matériel. Vous voyez, immatériel. Il y a matériel dans immatériel. Alors le im veut dire au-delà du matériel. Ceci est matériel. Quand vous touchez votre corps, c'est matériel. Il y a une ressemblance entre la matière et mon corps. Mais ce n'est pas la même façon. Hein. Mon corps est vivant, la matière-là n'est pas vivante. Et quand vous passez au-delà du sensible, au-delà du quantifié, vous avez quelque chose qui est au-delà du sensible et de la quantité. Et vous direz, c'est immatériel. Mais vous n'avez pas le toucher de l'immatériel. Vous n'avez jamais touché quelque chose d'immatériel. Un ange, votre intelligence, vous ne l'avez jamais touché. Et vous avez conscience. Ah, vous voyez ? Alors vous pouvez faire une espèce d'analogie. Toutes les réalités sensibles, je les touche. Les réalités spirituelles, j'en ai conscience. La conscience est comme un toucher immatériel. J'en ai conscience. j'ai conscience de quelque chose d'immatériel, de mon âme. Mon âme est immatérielle. Et je n'ai pas d'exemple concret de quelque chose d'immatériel. Vous portez en vous un être immatériel qui informe votre corps et qui, par votre corps, devient matériel et sensible. Mais vous pouvez toucher intellectuellement. Vous voyez ? Quand vous prenez conscience de ce que c'est que l'universel, est-ce que l'universel est sensible ? Posez-vous la question. Est-ce que l'universel est sensible ? Non. Vous avez conscience de l'universel. Vous dites « homme », un mot universel. « Homme », il est dans Pierre. Oui. Mais Pierre, ce n'est pas l'homme. Donc, vous avez conscience intellectuelle de quelque chose qui est au-delà de la matière, au-delà. Quelque chose qui est immatériel transcende la matière. Et vous ne touchez pas, vous ne touchez que les réalités sensibles. Parce que le toucher à un organe sensible, il me permet de connaître toutes les réalités qui sont sensibles. Mais il y a des réalités qui ne sont pas sensibles. Votre âme. Et vous avez une certaine expérience de votre âme. Surtout dans les douleurs, les souffrances. Quand vous avez quelqu'un que vous aimez beaucoup et qui souffre. Vous avez une certaine expérience de la souffrance immatérielle. Vous avez une expérience de la souffrance physique. Mais vous avez aussi l'expérience d'une souffrance immatérielle. Vous arrivez à connaître comme ça les deux consciences qu'on a, une conscience physique et une conscience immatérielle, grâce à votre intelligence. Et votre intelligence, elle se découvre à partir de cette conscience au-delà du sensible. Donc, l'intelligence n'a pas d'organe. Elle n'a pas d'organe. Tandis que le toucher a un organe, c'est sûr, c'est... Et si vous brûlez, vous brûlez l'organe, la chair humaine. Tandis que, intellectuellement, plus vous atteignez des vérités spirituelles, plus votre intelligence se développe. Il n'y a pas de limite. L'être premier, Dieu, un être infiniment qualitatif. Dieu, être premier et sans matière. Absolument simple. l'intelligence est universelle, est immatérielle. Quelle place l'intelligence a-t-elle dans le développement de l'intelligence? Alors ça, c'est très important. Je ne peux pas connaître sans l'aide de l'imagination. Et c'est ce qui me permet de parler. Toute réalité spirituelle, au-delà du sensible, vient du sensible. Elle est abstraite. Alors là, vous passez à une donnée très importante au point de vue intelligence, c'est l'abstraction. Comment le petit enfant qui reconnaît son père, il voit un autre homme, il dira papa, jusqu'au jour où il distinguera papa de cet homme. Il n'arrivera pas à dépasser ce point de vue universel de l'homme. Il restera fixé à ça. Alors que l'intelligence a besoin d'aller plus loin, atteindre l'être. Ceci est. Vous voyez, il y a des degrés d'abstraction. Et ces degrés d'abstraction sont ordonnés à saisir ce qu'il y a de premier dans la réalité. Toute réalité qui existe est. Abstraire, c'est rejeter, abandonner et garder quelque chose. Quand vous essayez de comprendre la différence de ce qui est imaginable, de ce qui est l'intelligible, vous voyez que ce qui est, en tant qu'il est intelligible. Et quand vous dites que c'est intelligible, vous voulez dire qu'il est au-delà du sensible. Alors vous voyez, c'est comme ça que vous pouvez arriver à préciser que l'intelligence est faite pour saisir l'être, ce qui est. Ce qui est, et n'importe comment, il est. L'être imaginaire est de l'être, mais imaginaire. Alors même dans l'être, vous distinguez l'être de raison, l'être imaginaire, l'être existant. Vous voyez, l'intelligence est faite pour saisir l'être. Et elle précise tout de suite l'être de raison. L'être de raison, c'est un être que vous fabriquez vous-même. L'universel est un être de raison. Vous comprenez que c'est très important l'universel. Parce que quand il n'y avait pas la connaissance universelle, on était obligé d'accumuler des tas de choses. L'universel prend ce qu'est de commun dans une quantité, une multiplicité. Mon intelligence essaie de saisir toujours plus profondément la réalité. Et quand l'intelligence atteint une réalité au-delà du sensible, elle atteint une réalité intelligible, elle saisit l'intelligibilité de ces choses. Et l'intelligibilité de ces choses, c'est justement ce qui a d'essentiel à cette réalité. Il est essentiel à l'homme. Il est essentiel à telle réalité, à l'homme, d'avoir une capacité de connaître. Si cet homme n'est pas capable de connaître, son intelligence ne s'éveille pas. Et vous voyez ça, dans certains cas, limite. Je me souviens de cette petite fille qui avait une mère qui avait été extrêmement courageuse. Craignait devant rien. Alors, la petite fille revient le soir après avoir joué. Sa mère lui demande ce qu'elle a fait. Alors, elle dit qu'elle n'a pas osé faire tel jeu particulier parce qu'il fallait s'abandonner et que ça lui faisait peur. Alors sa mère se fâche, dit, on ne doit pas avoir peur comme ça. Quand on voit les autres qui dégringolent sur un toboggan, bon, on le fait aussi. Alors ça a impressionné cette petite fille. Elle n'a rien dit. Le lendemain, elle est partie au même endroit. Et puis elle a voulu faire toute seule, dégringoler avec une fausse intense. Alors, quand on a la fausse intense, il arrive toute espèce de malheur. Et ce toboggan l'a précipité par terre. Et la pauvre, il y a eu quelque chose. Elle a perdu conscience. Je l'ai vu du reste. Je connaissais avant et après. Petite fille délicieuse perdait conscience. Il y avait quelque chose. Et tous les médecins possibles ont essayé. Elle ne parlait plus. On ne savait pas si elle vous voyait, si elle vous, quand elle regardait, si elle avait conscience de ça. Vous comprenez, comme la mère a porté ça. Elle n'était pas coupable, mais peut-être qu'elle avait incité trop. La peur, quelquefois, nous avertit qu'il ne faut pas faire quelque chose. Cette fille avait fait ça. Elle avait dégringolé comme ça. Et elle n'a jamais rattrapé sa conscience. Elle est restée à l'âge de 5 ans, pour tout, et bien arrêt. Il ne pouvait plus parler. C'est mystérieux, ces choses-là. Parce que la personne, le développement de la personne, s'était arrêté avec le développement de l'intelligence. Et développement de l'intelligence s'était arrêté à l'imagination. Et notre intelligence dépend de nos expériences. Elle dépend du contact que nous avons avec la réalité. Et l'intelligence peut arriver à s'arrêter si ce contact n'existe plus, ne se fait plus. On est une réalité terriblement complexe et qui aboutit à l'intelligence. Mais avant d'aboutir à l'intelligence, il faut passer par l'imagination. Il faut passer par cette construction qu'on fait d'images. Il faut comprendre ce développement de l'intelligence, de la conscience, qui est quelque chose de très grand, de très beau. Donc, l'intelligence est immatérielle, mais elle est reliée par l'imagination au sensible. Et chaque fois que vous connaissez quelque chose, il y a le support imaginatif. Et c'est par là qu'il peut y avoir une brisure entre le sensible et l'intelligible. Le sensible est ce que votre intelligence connaît. Et normalement, cela se fait sans qu'on s'en aperçoive. Un enfant apprenant à parler a dit « Papa, il a découvert, et vous ne savez pas exactement quel moment, homme et papa. Papa, c'est cet homme particulier. Et on arrive à connaître l'homme. L'abstraction se fait naturellement. Naturellement, vous apprenez une langue. Et avec la langue, vous apprenez des abstractions différentes en chinois et dans une langue indo-européenne. L'abstraction est différente. Donc la vie d'intelligence réunie à l'imagination est différente. Pourquoi l'amitié ne révèle-t-elle la personne et ultimement nous conduit à la découverte de l'être premier? Je ne vois pas maintenant, nous reviendrons là-dessus, parce que c'est très important ça. L'amitié, c'est un phénomène affectif, pas intellectuel. On peut être très intelligent et ne jamais avoir d'amis. Et on peut être moins intelligent et être amicabilis, capable d'attirer l'amitié. C'est pas l'intelligence seule qui fait ça. C'est quelque chose de très curieux. Amicabilis, être aimable, attirer les regards. Pourquoi certaines personnes nous sont tout de suite sympathiques et d'autres personnes ne le sont pas? C'est le début de l'amitié, ça. Pourquoi la recherche de la vérité constitue-t-elle la personne? Parce que la recherche de la vérité nous conduit à ce qui est notre bien, à ce qui est capable de nous finaliser. Or, Dieu est capable de nous finaliser. Vous dites que quelqu'un qui ne cherche pas la vérité n'est pas une personne. Est-ce un jugement moral ou métaphysique? C'est un jugement humain. quelqu'un qui ne cherche pas la vérité, et vraiment, hein, parce que la vérité, on la découvre à tous les niveaux. Il y a une vérité mathématique, une vérité scientifique, une vérité métaphysique. C'est toujours la recherche de la vérité. Elle est plus ou moins proche de la personne. Il y a une vérité affective. Il y a une vérité pratique, prudentielle. Il y a une vérité artistique. Oh, la vérité. La vérité, on la cherche partout. C'est pour ça qu'on dit en philosophie que la vérité est un transcendantal. Ça dépasse toutes les catégories. C'est au-dessus des catégories. C'est quelque chose de transcendantal. Elle est au-dessus. La recherche de la vérité, c'est l'exigence pour notre intelligence de trouver son bien. Le bien d'intelligence, c'est la vérité. C'est que notre intelligence soit conforme à la réalité existante. Nous verrons tout de suite demain quelque chose qui sera plus facile pour vous, l'amour. Et je prends exprès les deux. On ne peut pas vraiment aimer en étant bête. La bêtise ne suffit pas à l'amour. Il y a quelquefois des gens bêtes qui aiment. Oui, ça se voit. Mais ça ne dure pas.